Morin.
Très fier.
En vacances.
Plus que fier, là. Ému.
Morin. Live.
Radio X.
88-670-9098 pour nous parler de circulation ce matin. C'est un peu plus problématique que les autres matins, mais c'est quand même pas la fin du monde. Sur la 20, dans les deux directions, à la hauteur de Taniata, c'est compliqué à cause des travaux. C'est au ralenti également sur Capitale. Pour les gens qui sont direction ouest à partir de Bourg-Royal en se rendant jusqu'à Robert-Bourassa, je vous confirme également que l'accès au centre-ville, c'est vraiment un peu plus difficile que ce l'était au courant de la semaine. Là. On voit qu'il y a du trafic sur la côte d'Abraham, sur Charest, sur Dufresne-Montmorency aussi. Mais je dis du trafic, là, c'est pas ça. Là. On n'est pas au mois de septembre, j'en conviens. Mais quand même, il y a un ralentissement, il y a beaucoup de couleurs sur la carte. Continuez de nous écrire au 88-670-9098, entre autres pour nous dire que Henri IV, direction sud, à la hauteur des travaux, sur le chemin Sainte-Foy. Encore une fois ce matin, c'est bien compliqué, la promotion. Famille et amis est en cours chez Pharmaprix. Ouvrez votre application PC Optimum, obtenez votre bon et économisez 20% sur presque tout. Il y a des exclusions qui s'appliquent.
Jeff Caron. Jeff Caron.
Hey, salut Jeff, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va très bien, merci. Ce matin, le Journal de Québec qui fait peur à bien des familles de Québec pour une raison fort simple, c'est qu'il y a 1400 militaires de Valcartier qui sont en Lettonie, puis on apprend que la Russie... Il y a de l'information concernant la Russie qui voudrait attaquer la Lettonie. Jusqu'à quel point c'est crédible?
Ben écoute, c'est les mêmes médias. La guerre en Ukraine, qui est en train de perdre du terrain depuis les dernières semaines, puis que... Et que la Russie est condamnée à perdre la guerre au cours des prochains mois et des prochaines années. C'est les mêmes qui sont en train d'essayer de nous convaincre que la Russie est prête à passer à l'offensive contre des pays membres de l'OTAN. Voyons, ça tient pas debout, là.
C'est bien.
Puis de toute façon, comme je vous l'ai déjà expliqué, la légitimité politique de Vladimir Poutine, c'est un contrat social autoritaire. Ça repose sur sa capacité de livrer la marchandise, donc procurer aux gens du bien-être matériel, de la sécurité, puis les laisser tranquilles dans leur sphère privée. Donc, engager une guerre contre un pays membre de l'OTAN, ça veut dire être dans une troisième guerre mondiale. Là. Mm-hmm. Ça veut dire devoir accepter de faire tous les sacrifices pour notre sécurité, notre santé, puis oublier le bonheur matériel, être obligé d'aller servir comme conscrit dans l'armée. Or, la mentalité du peuple russe là, est pas du tout prête en ce moment, en 2026, à accepter ça. Parce que depuis que Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, il a fondé sa légitimité politique. Les fondements même du poutinisme, du régime russe, c'est sur la livraison de la marchandise. Donc le peuple russe n'est pas prêt à accepter de faire les sacrifices qui s'imposent. Puis c'est la raison pour laquelle l'Ukraine vise les installations stratégiques russes, détruit des oléoducs, des endroits où des raffineries de pétrole. Pourquoi? Pour causer une pénurie de pétrole, pour que ça crée un mouvement de réaction populaire contre le régime en Russie. Ils le savent très bien, leur stratégie, c'est vraiment la stratégie qu'ils doivent développer s'ils veulent avoir la moindre chance d'obtenir en tout cas des concessions qui pourraient les avantager dans l'éventualité d'un cessez-le-feu. Or, que la Russie s'engage dans une guerre contre un pays membre de l'OTAN, c'est remettre en question l'entièreté de la légitimité politique de Poutine. Le peuple russe pourrait fort bien ne pas l'accepter. Donc, ouais. Moi, j'y crois absolument pas.
En fait, c'est comme si quelqu'un lancerait sa TV dans la fenêtre du salon. Là. Je veux dire, il ferait un gros statement, mais le salon serait peu habitable.
Non, c'est ça. Puis après ça, il pourrait pas écouter ses émissions. Là.
Non, ben non, c'est bien important. T'as bien raison.
Oui. Ouais. Non, en fait, Vladimir Poutine, en ce moment, il est pris dans un dilemme parce que l'Ukraine a développé une bonne stratégie pour lui faire mal là où ça peut faire mal. Donc, en créant du ressentiment puis du mécontentement auprès de la population russe. Mais en même temps, il ne peut pas signer une paix sans avoir atteint ses objectifs. Donc, c'est un catch-22, son affaire. Là. Peu importe la décision qu'il va devoir prendre, il s'expose, ça le rend vulnérable. Puis, on le voit, il y a les oligarques, il y a des gens à l'intérieur du régime russe, il y a des rumeurs comme quoi l'ancien ministre de la Défense, Sergei Shoigu, aurait été tassé. En tout cas, un de ses lieutenants aurait été tassé au cours des dernières semaines. Pourquoi? Pour envoyer un message, parce qu'à l'intérieur des oligarques, de l'élite russe, il y aurait des mouvements de protestation, parce que les Ukrainiens, ils sont en mesure de les frapper là où ça fait mal.
On parle.
Ils sont sur la défensive en ce moment, là, les Russes. Là.
Ben, définitivement.
Ils ne vont pas l'admettre. Donc, passer à l'offensive contre un pays membre de l'OTAN, ça veut dire un engagement de tous les pays membres de l'OTAN, probablement pas les États-Unis, qui restera à l'écart d'un conflit strictement européen, mais ça signifie quand même toutes les armées européennes, dont la France aussi, qui est une puissance nucléaire et qui est en mesure d'utiliser par elle-même son arme nucléaire sans avoir à demander la permission à qui que ce soit, contrairement aux Britanniques. C'est un système de double clé avec les États-Unis, mais c'est un pari extrêmement risqué pour la Russie.
Et qui maintient à garder son autonomie. Là, Macron l'a encore redit hier dans une énième conférence de presse, mais l'information là, qui, d'après ce qu'on comprend, aurait été acquérie par des espions américains, pourquoi on l'a fait couler? Qui a quoi à gagner là-dedans? Est-ce que c'est de la propagande russe? Est-ce que c'est les Américains qui essaient de déstabiliser le régime davantage? Qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Ben, c'est vrai que les Russes construisent des bases à proximité des pays baltes. Mais c'est aussi que les pays membres de l'OTAN construisent eux aussi des bases, des installations à proximité de la Russie. Donc, c'est une façon pour la Russie de monter le ton puis d'envoyer un signal aux pays membres de l'OTAN que si vous essayez un coup de force contre nous, ben on va être prêt à réagir. Ça ne veut pas nécessairement dire, parce qu'ils construisent des bases à proximité de l'Estonie, de la Lituanie puis de la Lettonie, qui vont envahir ces pays-là.
Bon, on le voit avec les Américains qui ont bâti des bases partout dans le monde puis n'ont pas envahi personne.
Non, non, c'est ça. Donc, tu sais, faut. En tout cas, moi, je prends ça avec un gros grain de sel. Parce que c'est les mêmes journalistes, encore une fois, qui vous disent que l'armée russe est sur le point de s'effondrer en Ukraine, mais c'est la même armée qui est prête à conquérir l'entièreté de l'Europe. Ça marche pas, là.
C'est bon. Donc, en t'écoutant, la famille, là, Nancy, que son chum est parti en Lettonie, elle respire un peu mieux. C'est sûr que c'est à lui les pages du Journal de Québec ce matin.
Je pense que son chum a plus de chances de se réveiller avec une grosse gueule de bois après avoir bu de la vodka estonienne,
oui.
ou de mourir dans un accident d'auto, comme c'est déjà arrivé avec des soldats dans la région qui sont décédés dans des accidents d'auto. Là. Donc,
maintenant, je vais te parler de l'Iran, de Donald Trump, parce que la semaine passée, on apprenait que le régime en place en Iran à l'heure actuelle, c'est la tête du gros Donald qui veut le dire.
Bon, ça, c'est une information israélienne.
Oui, mais ben on est toujours dans la propagande, Jeff, ça.
Ben oui.
J'en conviens.
Ben donc, on sait que les Israéliens, en février dernier, après deux semaines avant que Trump ordonne l'attaque contre l'Iran, les Israéliens ont vendu une menace à la con à Donald Trump, selon laquelle les Iraniens ne seraient qu'à quelques jours, à quelques semaines, de posséder l'arme atomique et que c'était une menace existentielle contre la région puis l'État d'Israël. Il fallait absolument que les États-Unis viennent aider leurs alliés dans la région. Bon, tu sais, Israël, ça fait 30 ans qu'ils répètent que les Iraniens sont à quelques semaines près d'obtenir l'arme nucléaire.
Oui, c'est demain matin.
Ben oui, puis l'uranium enrichi, ça c'est... Mettons que tu es capable de développer de l'uranium enrichi puis de construire une bombe nucléaire. OK? Ouais. Admettons que ce soit vrai. Mais ça, c'est la première partie d'un long processus, parce qu'après ça, le plus grand défi, c'est d'être en mesure de miniaturiser ton ogive pour la mettre sur un missile nucléaire. Ça, là, à l'heure actuelle, les Nord-Coréens, qui ont l'arme atomique, ils l'ont testée, on le sait, on ne sait pas s'ils ont la capacité de miniaturiser une bombe pour la mettre sur une ogive. Même chose pour les Iraniens, ça leur prendrait des années à être en mesure de le faire, si jamais il sera en mesure d'atteindre cet objectif-là. Donc, les Israéliens, en février dernier, ont vendu une menace qui était fort probablement très hypothétique, pas vrai, aux États-Unis, pour permettre à Netanyahou de continuer à s'engager dans des guerres sans fin. Bon, c'est les mêmes qui sont en train de vendre l'idée que les Iraniens seraient prêts à assassiner Trump. Bon, moi, je regarde, sur la base des mensonges israéliens des derniers mois, encore une fois, je doute que ce soit une menace crédible, mais d'autre part, mais admettons que la menace soit crédible, bien, à quelque part, Donald Trump a décapité le régime iranien. Hein? Il a ciblé les mollahs, les dirigeants de l'armée iranienne. Bon, bien, à partir du moment où tu décapites un régime, bien, il faut que tu t'attendes à ce que le régime en question essaie de te décapiter.
Et des représailles,
ouais. Ton propre régime aussi, là. C'est la raison pour laquelle, dans l'histoire de la guerre, les belligérants n'ont jamais cherché à éliminer les chefs politiques du pays adverse. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils commençaient à faire ça, ben l'autre pays allait faire exactement la même chose avec eux autres. Donc Trump et les Israéliens, depuis la dernière année, ils ont brisé une espèce de règle non écrite. Puis si la menace est crédible, ben Moi, je ne suis pas étonné que les Iraniens veulent faire exactement la même chose que les Américains et les Israéliens ont fait au régime iranien. Tu sais, le nouveau Mollah qui est en place...
Oh oui, non, c'est pas un doux.
Ils ont tué son père, ils ont tué sa mère, ils ont tué ses neveux, ses cousins, ils ont tué tout le monde de sa famille. Puis c'était délibéré, c'était pas des frappes hasardeuses par accident, c'était délibéré. On se met dans ses culottes. Il n'aurait pas envie, lui aussi, de tuer Trump et l'entièreté de sa famille.
Mais c'est sûr que c'est définitif. Ça fait partie. Puis moi, j'ai toujours compris qu'à la guerre, tu réponds exactement. La meilleure tactique, c'est de répondre. T'as pas le choix.
Œil pour œil.
C'est œil pour œil, faut que tu répondes.
Ben écoute, c'est ça. C'est comme des enfants dans la cour d'école là, qui sont victimes de bullying. Ben ces enfants-là qui répliquent jamais. Ben, à un moment donné, c'est pas juste un bully qui leur tombe dessus, c'est l'entièreté de l'école qui les accueille à chaque récréation. Bon, ben, jusqu'au moment où l'enfant en question décide de se défendre puis de donner un coup de poing, mais tant aussi longtemps qu'il le fait pas, il se fait écœurer par tout le monde dans la cour d'école. Bon, ben, c'est la même chose à la guerre.
Est-ce que c'est le Mossad qui contrôle les discours de corridor actuellement sur le plan international?
Parce qu'ils jouent un grand rôle, puis ils savent très bien qu'avec Trump, à cause de son jeune, là, Jared Kushner, ils savent là, qu'il y a une oreille attentive à la Maison-Blanche pour les différentes théories qui sont mises à l'avant par le Mossad puis le gouvernement israélien. Puis, tu sais, ça serait pas pareil avec Gilly Vance, parce qu'on sait qu'il y a eu des discussions, des coups de fil très, très houleux avec Netanyahou. Lui, il n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde que Trump sur la question du conflit au Proche-Orient, mais Trump, pour des raisons familiales, parce que son gendre est confession juive.
J'ai l'impression aussi que le Mossad a un peu moins d'enveloppe brune sur J.D. Vance que sur Donald Trump. Là.
C'est possible aussi. Ouais. Donc, probablement, la possibilité d'un compromat est probablement plus élevée avec Trump qu'avec Vance.
Ouais. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, je veux te parler des Émirats arabes unis et de toute cette portion du pays-là. C'est la même chose pour l'Arabie saoudite. Est-ce que tu sens, puis on va finir par parler de dopage sportif, là, mais est-ce que tu as l'impression que ces gens-là essayent d'acheter le monde d'amusement du monde occidental? T'sais, en allant acheter la FIFA, en allant acheter des équipes, les grosses équipes de cyclisme, en allant acheter des équipes de soccer en club un peu partout, en allant chercher de la Formule 1, en essayant d'aller chercher les Olympiques. J'ai l'impression qu'ils lèvent la main en disant « on est là, on a de l'argent, puis on veut que tout ça soit chez nous ».
Ouais, ben c'est leur soft power. Hein. Ils essaient de se mettre sur la map en achetant des équipes sportives, en accueillant des grands événements internationaux. La Coupe du monde de soccer, il y a 4 ans, c'était au Qatar. En 2028, c'est Dubaï qui va accueillir les championnats du monde de cyclisme sur route. L'année d'après, les championnats de cyclisme sur piste. Donc, tu sais,
la Coupe du monde en 2034, en Arabie Saoudite.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ils essaient de devenir des hubs qui attire les gens parce que tu sais ils sont aussi conscients d'une chose, c'est que le pétrole ça durera pas éternellement de leur côté, donc ils doivent développer des alternatives pour générer des revenus, puis une façon de le faire c'est par le biais du tourisme. En Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman par exemple a permis aux femmes de pouvoir conduire librement. C'est un pays qui s'ouvre beaucoup au tourisme international, donc ils sont en train de suivre la voie des Émirats arabes unis, de Dubaï, qui ont commencé il y a environ 30 ou 40 ans. Donc, ça fait partie de leur stratégie. Et puis, donc, c'est une espèce de question existentielle. Ils doivent se mettre sur la carte. Ils doivent se présenter sous leur meilleur jour pour être en mesure d'attirer des touristes de par le monde. Puis c'est ça, ça fait partie de leur stratégie. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont énormément d'argent d'investi dans ces projets-là. Et c'est inévitablement des projets qui ne peuvent pas échouer. D'où la raison pour laquelle les Émirats arabes unis, par exemple, Bahreïn, qui ont aussi une équipe cycliste...
Le Qatar, qui est un club de soccer. Tu sais, c'est des gouvernements qui achètent si on veut, des clubs, là. C'est une équipe cycliste, c'est un club, et qui mettent des budgets sans fond, là.
Ah oui, c'est ça, il n'y a pas de limite. Là. Ils veulent se payer un joueur de soccer, puis qu'est-ce que tu veux, puis ils vont y donner. Là. Mais ça fait en sorte qu'avec tout l'argent qu'ils ont, ils placent leur pion un peu partout dans ces organisations internationales-là. Et ce qui fait en sorte que, là, si on veut parler de dopage, ben, ils sont en mesure de graisser la patte des dirigeants de ces organisations-là pour qu'ils ferment les yeux. Parce que s'ils commençaient à appliquer comme ils devraient le faire, les politiques antidopage, ben, il y a peut-être beaucoup de coureurs de l'équipe UAE qui seraient pris. Puis si c'est le cas, ben, ça veut dire le démantèlement de l'équipe. Puis ça veut dire le démantèlement de l'équipe, ça veut dire que l'Union cycliste internationale n'a plus d'endroit pour organiser ses championnats du monde, dans un endroit où « money is no object ». Donc, tu sais, on l'a vu dans les années 90, début des années 2000, tu sais, Lance Armstrong, le président de l'Union cycliste internationale, on le sait qu'en 2004, au Tour de Suisse, il s'est fait pogner pour dopage. Qu'est-ce que Lance Armstrong a fait? Il a fait un don à l'Union cycliste internationale, slash à Heinz Verbruggen, qui était son président. Puis le test antidopage a été mis sous le tapis, puis il a disparu. On peut facilement s'imaginer que c'est un ticoun comme Lance Armstrong qui a donné un pot de 25 000 piastres à Verbruggen a été en mesure de s'en tirer. Imaginez-vous des princes saoudiens ou émiratis qui, qui ont des yachts, des palaces immenses partout à travers le monde, à quel point eux, ils sont capables là, de verser. Eux, donner un pot de vin d'un million, d'un demi-million, c'est de l'argent de poche pour eux autres, là.
Parce qu'en même temps, ils sont en train d'acheter le sport professionnel. Ils sont même en train de briser les courses. Là. Je veux dire, c'est eux autres ont le budget d'une nation au complet très, très riche pour faire rouler une équipe de 22 cyclistes, alors qu'il y en a d'autres qui ont un budget des Remparts de Québec. Là.
Ben oui, c'est ça. Puis étonnamment, c'est pas étonnant, en fait. Les petites équipes qui ont des petits budgets sont vouées à disparaître. Il y en a de plus en plus qui mettent la clé dans la porte. Au sein du peloton professionnel. Et ça fait en sorte que c'est des équipes qui sont de moins en moins compétitives. Puis on le voit dans les résultats sportifs, là. Tu sais, je veux dire, FDJ Groupama, qui est une petite équipe française, ils gagnent plus rien. Pourquoi? Parce que c'est David qui doit compétitionner contre Goliath. Mm-hmm. Vous avez les gars de l'équipe UAE, l'équipe de Pogacar, ils ont des matelas de 5000 euros. Ils ont chacun leur matelas de 5 000 euros. Donc, quand ils emménagent dans un hôtel entre les différentes étapes,
ils changent les matelas des chambres.
Ils changent les matelas des chambres.
T'as vu l'histoire de l'air conditionné pour la journée de repos hier? Il n'y avait pas d'air climatisé dans l'hôtel. Fait que le directeur de l'équipe est allé acheter des couvertes rafraîchissantes à 3 000 la couverte pour chacun des membres de l'équipe.
Ben c'est ça. Fait que si toi, tu fais partie d'une petite équipe, tu dors sur ton matelas de marde d'un hôtel français 2 étoiles, dans une chambre à 35 degrés parce qu'il n'y a pas l'air climatisé, tu n'es pas capable de dormir. Comment est-ce que tu vas être compétitif le lendemain sur une étape de 200 bornes à 35 degrés? Je veux dire, c'est impossible, là. Donc, il y a une asymétrie au niveau des équipes qui tue la compétition. Parce que les gens, les cyclistes, ils compétitionnent plus sur des bases égales. Puis à ça, il faut évidemment ajouter le dopage.
Ouais.
C'est assez évident, la lumière des performances stupéfiantes de Tadej Pogacar qu'Anguille Souroche.
Ouais, absolument, absolument.
Antoine Vaillé, c'est un ancien coach de l'équipe FDJ Groupama dans les années 90, qui lui a mis en place un système scientifique pour essayer d'évaluer si les performances sportives des cyclistes sont normales ou stupéfiantes. Donc lui en est venu à la conclusion que la façon la plus crédible d'analyser les performances des cyclistes, c'est le nombre de watts qui sont en mesure, en moyenne, de dégager sur une montée de 20 minutes. Puis, en deçà de 410 watts, on considère que c'est une performance normale. Puis, au-delà de 410, entre 410 et 430 watts, on est dans un seuil suspect. Entre 430 watts et 450 watts, on est dans le seuil qu'ils appellent miraculeux. Puis, au-delà de 450 watts, ils appellent ça le seuil mutant. Donc, c'est absolument impossible pour un être humain qui n'est pas dopé.
Puis on est là.
De développer des puissances comme celle-là. Donc, juste pour vous donner un exemple, Miguel Indurain, en 1995, lors du Tour de France 1995, dans les montées, il avait généré une moyenne de 455 watts, donc ce qui le place dans la catégorie des mutants.
Mais c'est le premier louche. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Miguel Indurain était shapé comme un joueur de ligne au football, puis il montait le tourmalet plus vite que tout le monde.
Ben oui, non, écoute, le gars, il était pas petit, là.
Non,
80 kilos, qui torchait des gars comme Marco Pantani de 55 kilos dans des montées de col. Là. Je veux dire, c'est impossible. Et donc, Tadej Pogacar, à la sixième étape, la montée du Tourmalet, dans les cinq derniers kilomètres, il aurait produit un effort estimé de 493 watts. Donc, pour l'entièreté de la montée de 17 kilomètres, sa performance aurait été, se situerait entre 410 et 450 watts en moyenne. Les cinq derniers kilomètres, près de 500 watts. Ça, c'est à peu près 50 watts de plus que Miguel Indurain, dont tout le monde sait qu'il était dopé jusqu'aux oreilles en 1995. Puis il a pris plus de deux minutes sur Vingegaard. Puis Vingegaard, il est arrivé au sommet du Tourmalet. Le gars, là, il était en liquéfaction.
Ouais, il était brûlé.
Il cherchait son oxygène. Pogacar, il accordait déjà des entrevues aux journalistes.
Pogacar,
il cherchait pas son souffle.
Il riait, puis il parlait, alors que Vingegaard n'était pas capable de déclipser ses pédales tellement il avait perdu plus d'énergie. C'est complètement hallucinant. Mais ça, moi, je pense que c'est un lien direct avec UAE, avec les Émirats Arabes Unis. Puis, tu sais, ils sont dans le soccer, ils sont dans le basic. À un moment donné, ils vont être dans le sport nord-américain. Là. Je ne serais pas surpris de voir... On va parler de la vente des Seahawks de Seattle tantôt avec Ray. Je ne serais pas surpris, à un moment donné, qu'on apprenne qu'ils achètent un club de football, un club de baseball, un club de hockey. Ils veulent vraiment être dans la parade, là.
Oui, c'est ça. C'est pour eux, c'est du soft power. Ils doivent se montrer, puis montrer que c'est des gagnants. Parce que les gens ont envie de s'associer avec des gagnants. Les gens ont envie d'aller faire du tourisme dans des pays gagnants, d'aller investir dans des pays gagnants. Donc, c'est fondamental pour eux. Ils doivent gagner à tout prix. Puis ils font en sorte que, peu importe les trucs louches qu'ils peuvent faire à gauche et à droite, ils se font pas pogner. Tu sais, moi, juste le fait de regarder la composition d'équipe UAE, leur directeur sportif,
oui.
C'est un Suisse, Mauro Gianetti.
Le gars,
dans les années 90, il s'est injecté du sang artificiel. Okay, une espèce de merde qui n'était pas testée, mais on lui avait dit que ça lui permettrait d'augmenter son niveau d'oxygène dans ses cellules. Il s'est injecté ça. Le gars, il s'est effondré pendant une étape du Tour de Suisse. Il est resté dans le coma pendant 3 jours. Puis quand il s'est réveillé, les médecins lui ont dit, écoute, tu dois nous dire ce que tu as pris pour qu'on puisse te donner le bon contre-médicament, là, mais tu dois nous dire ce que tu as pris. Puis il a dit devant les médecins le produit dopant qu'il avait pris. Mais les médecins, secret professionnel oblige, ils ne peuvent pas révéler l'information. Or, tu avais d'autres médecins qui étaient aux alentours, qui n'étaient pas les médecins traitants de Gianetti, qui ont entendu la conversation, et eux, ils menaçaient de parler. Mais Gianetti les a menacés de poursuite pour diffamation s'ils devaient révéler le contenu de la discussion.
Tout est louche.
Le gars, c'est un dopé professionnel. Puis en 2006, c'était le directeur sportif de l'équipe Sony Duval, où tu avais un Italien, Riccardo Rico, un type, là, il l'appelait le Cobra. Le gars, dans des montées à 7-8%, il était sur le gros plateau. Il arrivait au sommet, il n'était pas essoufflé. Ben, il s'est fait pogner pour utilisation d'érythropoïétine.
Mais c'était l'époque, Jeff, où il est pogné encore.
Ben, c'est ça. Mais, tu sais, je t'ai envoyé il y a quelques jours
un documentaire
français. En fait, ce qui se passe fort probablement en ce moment, les gars, ils utilisent du micro-dopage. Donc, des toutes petites doses de PO puis d'hormones de croissance quotidiennement, ce qui fait en sorte qu'il n'y a jamais de hausse de niveau de leur oxygénation du sang. Ils sont toujours au même niveau, donc ils sont en mesure de passer à travers les mailles du passeport biologique. Donc le passeport biologique, ça a été mis en place il y a environ une quinzaine d'années pour justement pogner les tricheurs. Donc si à un moment donné, tu avais une évolution de ton oxygène dans le sang qui était complètement démesuré, c'était indicatif que tu avais pris un produit dopant. Donc ce que les gars font maintenant pour éviter de se faire pogner, ils s'injectent des microdoses de différents produits, ce qui fait en sorte que leur niveau
d'analyse... Ça change jamais.
Ça change absolument pas. Donc, vous avez un scientifique français qui a fait l'expérience avec une douzaine de cyclistes, de coureurs amateurs français de haut niveau. Pendant un mois, il leur a injecté des microdoses, puis les gars, ils ont augmenté leur niveau de performance en l'espace de 3-4 semaines.
C'est fascinant, là. C'est fascinant, le documentaire.
Vous allez voir votre documentaire. Et ils ont aussi intégré leurs données dans leur passeport biologique pour démontrer que s'il y avait eu des contrôles, ils ne se seraient pas fait pogner.
Oui, ils restaient dans la fourchette, même si eux autres venaient de commencer à y prendre. Donc, c'est complètement fou, complètement malade. Puis tout ça est caché à cause de l'argent.
C'est ça. Puis les gars le savent. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, à quel niveau ils doivent s'injecter des produits. Puis moi, j'ai l'impression que l'Union cycliste internationale est connivence. Puis ils ne veulent pas de scandale parce que Le sport, ben, ça rapporte. Tu as des investissements du Moyen-Orient, comme tu l'as dit, du Qatar, Bahreïn, des Émirats arabes unis. Donc, ça permet au sport d'être florissant. Aux compagnies qui organisent des courses, c'est le groupe ASO, le groupe Amaury Sport International. Ils ont généré l'année dernière, de mémoire, plus de 100 millions de profits.
Ouais, ça a pas de bon sens.
Pourquoi? Ben, parce que les gens écoutent les courses à la télévision, sont en mesure de vendre de la publicité. Donc, à quoi ça leur servirait? En quoi ça serait dans leur intérêt d'exposer ce qui se passe vraisemblablement dans ce sport-là, qu'on est revenu au même niveau que dans les années 90.
Les gens du plaisir, Jeff, ils achètent des T-shirts puis ils prennent de la bière sur le bord des routes. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hey, je te remercie.
Ouais, ça va être sur le bord de la montée Camille Aoud en septembre pour les championnats du monde. Puis ça va applaudir Tadej Pogacar en disant que c'est absolument formidable, ses performances. Voilà.
Mais c'était déjà un bon avant qui commence à se doper, mais à ce point-là, ça n'a juste pas de bon sens.
Ben, non, en fait, quand tu regardes sa carrière novice et junior, le gars, il n'a jamais brisé de record. Il a commencé à émerger en 2019-2020, out of nowhere. Tandis qu'un gars comme Mathieu Van Der Poel, qui a remporté l'étape avant-hier, lui, dès l'âge de 10, 11, 12 ans, il gagnait absolument tout. Donc, que ce gars-là, aujourd'hui, continue à gagner, ça ne me surprend pas. Mais qu'un gars sorte de nulle part, de Slovénie, un pays qui n'a absolument aucun héritage cycliste, et qui se mette à gagner absolument tout, il faut le dire, il gagne absolument tout. Je m'excuse, là, mais... Puis le gars, il arrive en haut d'école, la bouche fermée en donnant des entrevues, en prenant 2 minutes sur ses adversaires.
En mangeant des jujubes.
Regarde, moi, je m'excuse, mais j'y crois absolument pas.
C'est fait, c'est dit. Merci, Jeff. Passe une super journée. Bonne semaine.
Aussi, bye.
Bye-bye, Jean-François Caron, à qui on parle très régulièrement. C'était fort intéressant. Puis moi, je vous le dis, là, quand je regarde ce qui se passe du côté de Bahreïn, des Émirats arabes unis, le Qatar, sont vraiment en train d'acheter le sport international. Oui. Vraiment, vraiment, ils font tout ce qu'il faut pour le faire. Puis tout
ils
le monde
en pour, tu sais.
Ben, le président de Red Bull a dit « J'ai pas les moyens de les suivre. Je suis pas capable. » Ben, c'est sûr. On parle de la caisse d'un pays en entier, un pays qui est assis sur des millions de litres de pétrole. Les princes, s'ils ont de l'argent, ça leur sort par les poches.
C'est des milliards et des milliards.
À plus savoir quoi faire avec. C'est sûr qu'il y a personne qui est capable de les concurrencer. À un moment donné, il faudrait peut-être juste faire un haut, là. C'est juste dire « OK, c'est correct. On peut se tenir debout, là. » Puis continuer à gérer nous-mêmes nos ligues. 8h34, on parle à Ray au retour.
Morin.
Petite pause. De retour dans un instant. Radio X.